le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France Culture pour le service protestant. Sortir du découragement, c'est le thème que je vous propose ce matin. Un thème qui vous concerne peut-être ou qui concerne l'un de vos proches. Alors qu'est-ce que la Bible peut apporter sur ce sujet? Quels sont les mécanismes du découragement et comment en sortir? Nous en parlons tout de suite avec notre invité. Et ce matin, notre invité est le pasteur Samuel Rodriguez de l'Union des Églises Évangéliques de Réveil à Montreuil. Bonjour.
Bonjour.
Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème du découragement?
De plus en plus, je vois autour de moi des gens découragés. Et le découragement est un sentiment contre lequel il faut se battre, qu'il faut contrarier quelque part. Donc, naturellement, en tant que pasteur, mon désir, c'est plutôt d'encourager dans l'accompagnement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ce thème vient très régulièrement dans mes pensées, dans mes conversations. Alors c'est naturellement que je l'ai choisi comme thème lorsqu'on m'a demandé de présenter cette émission.
Est-ce que vous croyez que chacun peut sortir du découragement, de la dépression, de la grande fatigue ?
Je vois la détresse des gens et je me suis rendu compte que des fois une parole d'encouragement, une parole qui apporte la vie, une parole qui redonne de l'espérance, ça ne remplace pas le traitement médical auquel les uns et les autres parfois doivent recourir. Mais en tout cas, je crois que cela donne un élan à ceux qui veulent vraiment en sortir.
Alors vous avez aussi un ministère qui est très orienté sur l'encouragement, le soutien aux autres églises, c'est le ministère Barnabas. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ?
Oui, c'est une association que l'on nomme Mission Barnabas. En fait, Barnabas est mon héros dans la Bible. Barnabas est un nom araméen qui veut dire celui qui encourage, celui qui réconforte. Finalement, et littéralement, c'est le fils de la prophétie Bar, Ben ou Bin, c'est les mêmes préfixes pour dire fils, et Nabas qui veut dire prophétie, consolation. Et prophétie, le fils de la prophétie, le prophète est celui qui parle au nom de Dieu. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que la parole de Dieu est toujours une parole encourageante. Et celui qui apporte une parole divine, ça doit être une parole d'encouragement.
Alors je vois que le sujet vous motive et que vous avez beaucoup de choses à dire, donc je vous laisse la parole pour partager avec nous cette méditation sur le thème de l'encouragement, sortir du découragement.
Merci pour cette occasion. Dans la vie, il est parfois des jours où il s'installe un étrange découragement. Une fatigue pas comme les autres, un abattement, une tristesse capable d'avaler toute la motivation et la joie de vivre. Et ce sentiment de découragement est parfois tel qu'il peut réduire en cendres ce qui auparavant était plein de couleurs, nos projets, nos expectatives, nos rêves. C'est quelquefois ce qui arrive face à une situation d'échec, où l'on aurait tout misé, fourni tous les efforts et fait tout ce que l'on savait faire. Ou alors, face à une grande déception, à un abandon, face à une trahison. Mais c'est également ce qui peut survenir lorsque, sur le point d'accomplir un rêve, l'on se trouve face à un obstacle que l'on va juger insurmontable pour pouvoir achever la réalisation du rêve, de l'œuvre. Il faut dire, bien évidemment, que ce ne sont pas les obstacles qui découragent, mais plutôt la façon de les interpréter. Et cela a conduit un certain nombre de personnes à abandonner leurs rêves, avant même d'avoir essayé de les saisir. La Bible rapporte un grand nombre d'histoires où des hommes et des femmes ont vécu des situations de découragement et dans lesquelles nous pourrions aisément nous identifier. Ces épisodes deviennent alors une source d'enseignement et d'inspiration pour aider à comprendre et à surmonter le découragement. L'un des épisodes bibliques qui me parle particulièrement est relaté dans le livre des Nombres, chapitre 13. Il parle de la réaction des Hébreux lorsqu'ils approchèrent la terre que Dieu leur avait promise, juste après qu'il les ait délivrés de la servitude égyptienne. Les 12 hommes envoyés par Moïse pour épier la terre sont unanimes à rapporter qu'il s'agit bien, comme Dieu le leur avait promis, d'un pays où coule le lait et le miel. Seulement 10 d'entre eux rapportent également qu'ils y ont vu des géants, habitant dans des villes fortifiées et imprenables. Et la peur qui s'empare d'eux face à cette découverte va jusqu'à leur faire dire qu'ils ont été vus comme des fourmis par ces gens, qu'ils voient comme des géants, alors qu'ils n'en savent strictement rien. C'est juste ce qu'ils ressentent. Nous disions, il y a un instant, et j'aimerais le souligner, que ce ne sont pas directement les obstacles qui nous découragent, mais plutôt notre façon de les interpréter. Mais cela suffit pour faire douter et décourager tout un peuple qui ne pense plus qu'à faire marche arrière. Le découragement engendré par la peur et l'intimidation est une arme diabolique pour semer la panique et le désarroi. C'est un obstacle réel pour empêcher que les objectifs soient atteints. Ce découragement initie généralement une période de doute, d'incertitude, notamment par rapport aux choix de vie, aux décisions prises. Le futur devient sombre. Il peut y avoir un sentiment de perdition pouvant engendrer de l'angoisse, une sensation d'écrasement, voire même une démotivation pour continuer à vivre. Dans le cas des enfants d'Israël, cela les a conduits à errer dans le désert pendant 40 ans. Une génération, un cycle de vie, une saison. Un temps aussi pour changer de paradigme, car rien n'est définitif tant qu'il y a la vie. Et 40 ans après un long temps de désert, les revoilà à nouveau face à leurs rêves, mais aussi face à leurs peurs. Mais là, il ne s'agit plus de commettre la même erreur. Non seulement il ne faut plus se laisser décourager, mais au contraire, il faut s'encourager fermement. Et le texte biblique est riche à rappeler les nombreuses instructions et recommandations pour encourager les leaders et le peuple face à cette nouvelle tentative. Maintenant, le message de Moïse est sans équivoque. Voilà ce que l'on y lit dans le livre de Deutéronome, chapitre 31. « Soyez courageux et forts. Ne tremblez pas de peur devant eux. » Car le Seigneur votre Dieu marchera avec vous sans jamais vous abandonner. » Et le verset 7 dit « Puis Moïse appela Josué et lui dit en présence de tous les Israélites, « Sois courageux et fort. C'est toi qui conduiras les Israélites dans le pays que le Seigneur a promis à leurs ancêtres. C'est toi qui le partageras entre eux. Et le Seigneur marchera devant toi. Il sera avec toi, sans jamais t'abandonner. N'aie donc pas peur et ne te laisse pas abattre. » Thank you. Nous sommes en train de parler de courage et de découragement avec ses suites désastreuses. On pourrait croire que le découragement ne peut arriver qu'à des faiblards, mais la réalité est que tous, vous et moi, nous devons reconnaître avoir vécu des moments de grand découragement. Nous prenons inspiration dans les textes bibliques qui en parlent et sommes surpris parfois que des hommes au grand cœur et au caractère bien trempé ont pourtant été saisis de découragement. Ce fut notamment le cas du prophète Élie, qui lui aussi a vécu un profond découragement. Voici un homme d'un courage immense et certainement l'un des plus grands prophètes bibliques. Essayons de résumer le cadre. Lorsqu'Akab, roi d'Israël, sous l'influence de Jézabel, son épouse tyrienne, devient un adorateur du dieu Baal, c'est là que Élie paraît tout à coup. Il a le courage de se présenter devant ce souverain perverti pour lui annoncer une sécheresse de durée indéterminée. La famine sévit, mais pendant cette période, le courageux Élie va vivre plusieurs miracles. Il se retire d'abord près du torrent de Kérit où des corbeaux envoyés par l'Éternel le nourrissent. Et lorsque le torrent est à sec, Élie se rend à Sarepta sur la côte méditerranéenne et il y a là une veuve qui lui accorde sa confiance et partage sa dernière galette avec lui. C'est alors qu'un nouveau miracle intervient. La jarre de farine et la cruche d'huile ne s'épuisent pas avant que la famine ait pris fin. Aussi, le fils de la veuve meurt, mais la prière du prophète le rappelle à la vie. Quelque temps après, Élie reçoit de l'Éternel l'ordre de se présenter à nouveau devant le roi Akab. Sans hésiter, il y va et il s'ensuit une scène étonnante sur le mont Carmel. Élie convoque le peuple et lui reproche de danser pour deux divinités, faisant allusion à une danse cultuelle phénicienne et au double culte rendu à Baal et à l'Éternel. Il leur rappelle que l'Éternel n'accepte pas de partager le culte de son peuple avec un autre dieu. Il lance alors un défi aux prophètes de Baal en leur proposant de dresser un holocauste pour offrir à leur dieu Baal. Quant à lui, il ferait de même à l'intention de l'Éternel. Par contre, personne ne mettrait le feu au bûcher. Mais le vrai Dieu devrait répondre aux invocations de ses prophètes en faisant descendre le feu du ciel. On verrait ainsi qui est le vrai Dieu. Celui que l'on devrait suivre. Et le peuple acquiesça. La reine Jézabel, ayant fait massacrer les prophètes de l'Éternel, Élie se retrouve seul face à 450 prophètes de Baal qui, les premiers, commencent à invoquer leur Dieu. Malgré presque une journée d'invocation, de danse et scarification faite par les prophètes de Baal, il n'y eut aucune réponse. Alors Élie, à son tour, élève un autel et invoque l'Éternel pour qu'il se manifeste et montre qu'il est le vrai Dieu. C'est alors que le feu tombe du ciel et enflamme l'autel dressé par Élie. Le texte de ce récit que l'on peut lire dans le premier livre des Rois, chapitre 18, dit que « tout le peuple en fut témoin et les gens tombèrent face contre terre et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Alors les nuages se rassemblent, annonçant la pluie et le retour de la faveur divine. Jusque-là, on ne peut voir chez le prophète Élie qu'une grande force, un grand courage, une énorme détermination, de très grandes certitudes, que rien ne semble pouvoir ébranler. Pourtant, juste après cette scène, la reine Jézabel, adepte du culte de Baal, vexée par ce qu'il vient de se produire, va menacer le prophète d'une mort certaine. Et voici que cette parole intimidante va emmener cet homme hors du commun et créditer de choses extraordinaires, comme j'ai essayé de les résumer, à s'enfuir et à vivre un moment de grand découragement, à tel point qu'il va jusqu'à désirer la mort. C'est l'écrivain italien Vittorio Alfieri qui a écrit « L'épreuve du courage n'est pas de mourir, mais de vivre ». Mais ce que le récit biblique montre, ce n'est plus un homme courageux, un homme au grand cœur, que rien ne semble pouvoir ébranler, mais plutôt un homme dépité par le découragement, l'entraînant dans un état de dépression sévère, un homme qui ne veut plus vivre, qui ne veut plus être en compagnie de qui que ce soit. Un homme qui a le sentiment d'être incompris et de vivre une si grande injustice au vu de tout ce qu'il a fait. Il va jusqu'à s'enfermer dans une grotte, ne plus vouloir rien entreprendre, tout en se justifiant sans cesse comme pour se donner raison. Beaucoup pourraient certainement s'y reconnaître. Le sentiment d'avoir été abandonné, trahi, oublié, provoque une peine immense, une douleur indicible. Le cœur est déchiré, les repères disparaissent, le désespoir s'invite et l'envie de vivre se dilue. C'est là qu'une main de soutien, une parole de réconfort, une consolation, un encouragement relève le cœur. Encourager, c'est sortir un cœur de son isolement, de sa torpeur, c'est soulager sa douleur. Dieu vient à la rencontre d'Élie, là où il se trouve. Il le réconforte, le console, l'exhorte et lui rappelle qu'il n'a pas encore fini d'achever sa tâche. Il doit, entre autres, consacrer Élisée, son successeur. Encouragé par la parole de Dieu, Élie ne s'obstine pas et sort de sa quarantaine, de son isolement, et abandonne ses faux raisonnements. Le résultat est alors étonnant. Il reprend sa route et il transmet son onction à Élisée, qui devient à son tour un prophète hors du commun et réalise même plus de miracles qu'Élie n'a connu durant toute sa vie. Cela vaut toujours la peine de donner de la place à une parole qui relève le cœur. Et si le découragement est contagieux, l'encouragement l'est également. Si une parole peut être intimidante, décourageante, écrasante, voire mortifère, elle peut être aussi encourageante, édifiante et source de force et de vie. La parole de Dieu est une parole encourageante, une parole qui parle au cœur. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Et c'est la raison pour laquelle, dans toute la Bible, des exhortations qui appellent au courage reviennent sans cesse et quelle que soit l'époque. Jésus, le Christ, à son tour, ne cesse d'encourager. Au paralytique qu'on lui emmène, couché sur son lit, il dit « Prends courage ». À la femme qui, depuis 12 ans, souffre dans son isolement et qui, désespérée, vient à lui, il dit « Prends courage ». L'aveugle qui crie à Jésus son désarroi, il entend « Prends courage ». À ses disciples, Jésus laisse cette recommandation, qui jusqu'aujourd'hui retentit dans les cœurs. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage. » Lorsque Jésus prépare ses disciples à son départ, il leur dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le mot grec « parakletos », qui est traduit ici par « consolateur », et qui se réfère au Saint-Esprit, désigne quelqu'un appelé à se tenir aux côtés d'un autre afin de l'aider. Qu'est-ce que c'est, sinon quelqu'un qui encourage ? La Bible nous parle d'un homme très important au sein de l'Église des premiers jours à Jérusalem. Il s'agit d'un dénommé Joseph, originaire de Chypre. Mais tout le monde le surnommait Barnabas. Et c'est ainsi que la Bible parle de lui. Sans lui, la propagation de l'Évangile du Christ n'aurait jamais connu l'essor qu'elle a eu dès le départ. Barnabas est un mot araméen que l'on pourrait traduire par « celui qui encourage ». La Bible parle de Barnabas comme un homme rempli de l'Esprit de Dieu, un consolateur, quelqu'un qui encourage, qui relève le faible, qui voit la grâce de Dieu chez ceux que l'on mésestime. Sans lui, on ne connaîtrait certainement jamais Saul de Tarse, celui qui serait reconnu plus tard comme l'apôtre Paul, l'apôtre des nations, et en grande partie le fondateur de la théologie chrétienne. C'est Barnabas qui va aller à sa recherche après que celui-ci ait été éloigné de l'Église à Jérusalem à cause du climat tendu qu'ont causé son excès de zèle dans le témoignage public de sa conversion et de ses disputes avec ses anciens camarades. Personne ne voulait de ce personnage embarrassant et difficile, mais Barnabas ne l'a pas oublié. Et alors que Barnabas a la charge d'une nouvelle communauté de chrétiens à Antioche, il va le chercher et après l'avoir trouvé, le ramène auprès de lui et pendant un an, ils vont travailler ensemble. L'influence de Barnabas sur la vie de saint Paul est déterminante et se reflète dans ses lettres où les mots « consolation » et « encouragement » reviennent continuellement. L'apôtre Paul, alors qu'il se trouvait lui-même au sein d'un bateau naufragé et sur le point de couler, arrive toutefois à encourager ses compagnons de voyage qui avaient déjà perdu tout espoir en leur disant « Je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Le bateau seul sera perdu. » Et tous reprirent alors courage et mangèrent aussi. Ils ont finalement tous la vie sauve. C'est un épisode que l'on peut lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27 et verset 22. Tout cela parce que quelqu'un, en pleine tempête, ne s'est pas laissé décourager malgré les circonstances et malgré les avis défaitistes autour de lui. L'apôtre Paul avait appris avec l'apôtre Barnabas, l'apôtre de l'encouragement. Le découragement, je le répète encore, quelle que soit sa forme et sa nature, n'a qu'un seul objectif, nous arrêter dans notre course, briser notre rêve et nous empêcher de construire et d'arriver à bon port. Alors, s'il vous arrive encore aujourd'hui de vous laisser aller au découragement, premièrement, ne croyez pas que vous êtes le seul ou la seule à combattre cet état d'esprit. Deuxièmement, invoquez l'Éternel de toutes vos forces, comme le roi David l'a fait et l'a mis en chanson avec le psaume 18, où il écrit « Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Et puis, troisièmement, lisez la Bible et gardez-la dans votre cœur. Elle vous encouragera. Rappelons-nous que le découragement ne vient jamais de Dieu. Gardons toujours notre confiance en lui, sans jamais désespérer. Juste avant de vous dire au revoir, j'aimerais vous laisser 3 suggestions. La première, c'est que si vous êtes découragé, vous pouvez décider de sortir de votre découragement maintenant. C'est votre décision. Deuxième suggestion, c'est de ne laisser rien ni personne vous décourager. Et enfin, si je peux me permettre de vous donner cette 3e suggestion, c'est d'aller et d'encourager quelqu'un aujourd'hui. Si en ce moment, vous vous sentez découragé ou affaibli, je vous invite à faire cette courte prière avec moi. Père éternel, je viens à toi au nom de Jésus, le Christ, pour te prier que ton Esprit Saint, le Consolateur, me soutienne dans ce moment de découragement. Tu connais mon cœur, mes sentiments, mes pensées. Donne-moi la force que je ne retrouve plus et renouvelle mes pensées. Merci, mon Dieu, car tu écoutes ma prière. Amen.
Merci beaucoup Samuel Rodriguez d'avoir été avec nous pour partager autour de ce sujet. Je rappelle que vous êtes pasteur de l'Union des Églises Évangéliques de Réveil à Montreuil. Ainsi s'achève le service protestant proposé par la Fédération protestante de France et présenté par Benjamin Bories. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et à Cédric Châtelus pour la prise de son. Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez-nous au service protestant, 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur les sites franceculture.fr et protestantaupluriel.org. Vous pouvez également nous retrouver sur votre application préférée de podcast en tapant « Service protestant ». Restez à l'écoute de France Culture pour les informations à 9h, suivies à 9h10 de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wacknin. Bonne journée à vous sur France Culture.